3, c'est la bourse cash. Frédéric Rosier était avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez aujourd'hui, Frédéric, dire leurs quatre vérités au marché? Vous êtes sûr?
Certain.
Voici votre message et votre conseil aujourd'hui aux investisseurs. En avril, ne te découvre pas d'un fil de cuivre en l'occurrence.
Et
ce propos, vous l'assumez, Frédéric?
Je l'assume totalement, je le confirme.
Alors que le marché aujourd'hui, Frédéric Rosier, croule sous les publications, vous ne trouvez rien de mieux que de dire aux investisseurs en avril, ne te découvre pas d'un fil de cuivre en l'occurrence. Pourquoi était-il si important de le dire cet après-midi?
Alors c'est très important, on revient sur la discussion qu'on a eue les semaines précédentes, question de la pénurie de cuivre, oui ou non, en absence d'investissement majeur, est-ce que nous allons manquer de cuivre dans la transition énergétique à venir, dans éventuellement une économie qui ne ralentit pas, donc cette demande va exploser dans les années à venir et l'offre a tendance à plutôt ralentir, en tout cas de faiblement monter. Et on le voit aujourd'hui, une OPA, en tout cas une annonce d'une intention d'OPA qui booste quand même aujourd'hui ce marché. Donc je le confirme, c'est un secteur à surveiller, voire
c'est
à acheter.
Effectivement, énorme OPA peut-être à venir, effectivement, BHP Billiton sur Anglo-American, ce qui donnerait naissance à un nouveau leader mondial du cuivre, tout simplement.
10% de la production mondiale. Heureux téléspectateurs, auditeurs de BFM Business. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux au regard des retours que j'ai de vos auditeurs. Nous avions conseillé il y a 2 semaines le cuivre et notamment Anglo-American. Oui, on va avoir une vague de concentration parce que la complexité de la production du cuivre, la demande aujourd'hui omniprésente, notamment sur le véhicule électrique et le transport d'énergie, va exploser. Donc cette opération, si elle va jusqu'au bout, naissance du numéro 1 de production du cuivre, seulement 10% de la production mondiale, hein, donc il faut minimiser, et surtout derrière, une dynamique qui est très très porteuse dans les années à venir. Oui, on sera en pénurie de cuivre dans les 5 ans à venir.
Et donc si cette fusion-acquisition a lieu, se réalise, ce sera peut-être le déclencheur d'une vague, c'est ce que disent un certain nombre d'analyses, d'une vague dans ce segment des matières premières et pourquoi pas aussi du cuivre qui restera, même si on aurait là la naissance d'un nouveau géant, qui restera un secteur très très morcelé. Le cuivre, on parle tout le temps de l'intelligence artificielle et du cloud, il n'y aura pas plus d'IA ni de cloud sans plus de cuivre en l'occurrence, Frédéric.
Oui, le cuivre, vous le retrouvez dans les data centers, notamment dans les conducteurs. Donc oui, le cuivre alimente finalement tout ce qui est transition, développement AI, véhicules électriques, transport d'électricité, énergie solaire. Bref, vous le trouvez partout. Et comment vous voulez alimenter la croissance de demande si vous n'avez pas de production de cuivre? Donc oui, ça va continuer, ça va s'accélérer. Et on va avoir, à l'instar de ce qu'on a connu en 2007-2008, à mon avis, des records sur records sur cette matière première.
En avril, ne te découvre pas d'un fil de cuivre. Votre message aujourd'hui, on va quand même parler des publications dans un instant. D'ailleurs, Étienne nous rappelle, 15h46, on a une vraie vague aujourd'hui de publications. Alors, il est sur le pont, il prend les vagues et les embruns pour nous. Étienne, depuis la tour Euronext, vous êtes gâté aujourd'hui, Étienne. D'ailleurs, on est dans l'ambiance, là. On est sur le pont. Beaucoup d'embruns. Ah oui, 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 vous en prenez. Et nettoyez-vous et rincez-vous, Étienne. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et pour le coup, le marché est éclaboussé. On a un CAC 40 qui réagit moyennement. Il recule nettement le CAC 40 au milieu de ses publications.
Bah, d'autant plus que vous avez beaucoup de grosses pondérations. Hein. Regardez notamment Nestlé, c'est plus de 200 milliards de valo. Ça perd 3% à Zurich avec des résultats sous les attentes. À Paris, vous avez les résultats aujourd'hui de Hermès. Bah, alors, ils sont très beaux, hein, ces résultats, mais ils avaient déjà été anticipés. Donc, le marché vend la nouvelle. Vous avez un titre qui recule de 4%, qui fait plonger l'ensemble du secteur du luxe, moins 3% pour LVMH à 775 euros. Ça sera intéressant également de regarder les résultats de Airbus ce soir et de Total Energy demain. En attendant, bah, ça cale, hein, moins 1,5% pour le CAC 40, qui perd les 8000 points, 7 969 points du côté de Wall Street. Alors, le Nasdaq perd plus de 2%, il perd 1,8%, mais quand même, on est sur une baisse franche avec moins 4% pour Microsoft, moins 10% pour Meta, donc forcément tout ça, ça pèse sur la tendance américaine. Et puis, l'obligataire qui continue de grimper et qui reste toujours une alternative pour les gestionnaires aujourd'hui. 4,72 pour le 10 ans américain qui prend 7 points de base et qui se retrouve sur des niveaux de novembre dernier. Un dernier mot sur les volumes avec Romain Dobré qui vous le dit souvent, mais les volumes à la baisse restent toujours plus élevé que les volumes à la hausse, puisque là, la clôture, c'est dans moins de 2 heures et vous avez déjà 1,7 milliard d'euros négociés dans le CAC 40, alors que l'indice est sur les plus bas niveaux de la séance.
Effectivement, des volumes intéressants à suivre. 7964, on repasse sous les 8000 sur le CAC 40 après ces publications. Comment est-ce que vous les jugez, les publications du jour, Frédéric? Vous trouvez que le marché est sévère ou effectivement, il y a matière à peut-être reprendre plus de bénéfices?
Non, il y a un constat finalement, les sanctions s'opèrent surtout sur les titres qui ont bien, bien marché, bien valorisé. Ce qui crée un décalage finalement d'appréhension entre la société qui publie bien et une réaction négative. Donc finalement, c'est un marché de prise de bénéfices qu'on est en train de vivre. C'est assez classique, je l'avais dit la dernière fois, on est plutôt neutre moins, voire un baissier sur la période actuelle. Les publications aujourd'hui sont plutôt de matière à justifier les ventes. C'est le cas pour Hermès, par exemple, sur les résultats de manière factuelle, vous ne vendez pas le titre. Après, les guidances sont, certains messages, notamment sur la Chine, sont un peu plus neutres. Nestlé, c'est justifié, hein. Il y a de l'eau dans le gaz de Perrier, je dirais. Il y a de l'eau dans le gaz chez Nestlé depuis pas mal de temps et ça fait une accumulation de mauvaises nouvelles. Donc la sanction est tout à fait justifiée. Et puis après, vous avez des réactions aux États-Unis qui sont assez stupéfiantes. Meta qui publie au-dessus, mais le marché a envie de regarder la mauvaise nouvelle. On a Tesla qui publie des mauvais chiffres, mais donne des indications sur quelque chose d'assez encore hypothétique, et le marché salue à plus 13. Donc on voit qu'il y a une nervosité sur cette publication. C'est vraiment un marché de fin de cycle, on va dire. En tout cas, on est en train d'absorber la hausse de 6 mois qu'on a eue sur les marchés, et donc plus propice à une baisse dans les semaines à venir. Je pense que la baisse n'est pas finie d'ailleurs. On a potentiellement 4 ou 5% de baisse encore sur les indices. Je confirme ce que je vous ai dit il y a 15 jours. Je reste extrêmement prudent sur cette vague de publications.
Alors prudent, on le comprend. Est-ce que néanmoins certaines publications du jour vous semblent plus prometteuses que les autres? C'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs, Frédéric, sur nos réseaux sociaux, X BFM Bourse, également LinkedIn. Oui. Cette question, laquelle des publications du jour trouvez-vous plus prometteuse que les autres? Est-ce que c'est celle d'Hermès, celle de Sanofi, celle de BNP ou encore celle de Fnac Darty? Vous êtes nombreux d'ailleurs à répondre aujourd'hui. Vous, Frédéric, laquelle des nombreuses publications du jour trouvez-vous plus prometteuse que les autres?
Alors, c'est quelque chose qu'on avait évoqué notamment dans le portefeuille BFM responsable, c'est Sanofi. Je vous avais dit, le marché a un côté court-termiste et n'avait pas supporté que Sanofi augmente finalement ses capex, privilégie la croissance future au détriment des revenus court-terme. Et on voit, avec les résultats notamment de sa licence du Pixent, qui tire les résultats vers le haut. Donc, on a vraiment aujourd'hui un acteur qui est largement sous-coté, qui mérite honnêtement une prime de 20 à 25% de plus. On voit d'ailleurs dans le secteur, il y a AstraZeneca aussi qui monte de quasiment 6% au moment où on se parle. Sur le secteur de la santé, force est de constater, en tout cas pour les meilleurs, qu'il y a un vrai repricing qui est en train de s'opérer. Sanofi, aujourd'hui, c'est la très très bonne publication et finalement qui confirme ce qu'on pensait déjà il y a plusieurs mois, que ce titre en a vraiment sous le pied pour une croissance future.
Et finalement, le marché finira par acheter cette nouvelle stratégie qui a été annoncée il y a quelques mois par Sanofi. Elle avait été sanctionnée à l'époque. Finalement, dans la durée, cette nouvelle stratégie finira en bourse par être saluée.
Exactement. Ouais. C'est le côté un peu court-termiste. Quand vous avez des marchés qui montent, vous prenez finalement la bonne nouvelle du court terme. Quand les marchés recherchent la croissance future dans une incertitude de trajectoire, il va aller chercher certaines certitudes. Et la certitude aujourd'hui, c'est que Sanofi a des très belles licences, a des croissances, repart en phase de croissance. Mmh. Et en plus, va gonfler ce pipeline de nouvelles molécules dans les années à venir. Donc oui, vous achetez la croissance future dans ce type de marché. Et je pense que toutes les entreprises qui ont une stratégie long terme, on commence à revaloriser. Celles sur le billet un peu plus court terme, elles vont être sanctionnées.
Il y a quand même un titre qui lui fait la girouette aujourd'hui, c'est STMicroelectronics qui, c'est vrai, alors, chiffre d'affaires très très décevant. Le titre a ouvert en net repli tout à l'heure et puis cet après-midi, finalement, il gagne 1,3%. Qui a raison, le STM qui baissait ce matin ou celui qui progresse cet après-midi?
Je répète, les valeurs qui ont fortement baissé par anticipation de mauvaises nouvelles, c'était le cas de STM. Oui, oui. On sait qu'il y a des marchés un peu contraints, on se pose des questions sur l'exposition automobile par exemple, des choses comme ça, qui ont pesé sur le titre, STM, Infineon ou autre, dans les semi-conducteurs en Europe, ça a été assez pesant. Et là finalement, pour pas mal de sociétés, si c'est moins mauvais qu'attendu, on repaye. Alors que pour les entreprises qui ont été bien valorisées, qui sont sur les sommets, on va dire, finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un top de performance? Donc vous voyez des réactions qui sont totalement divergentes selon où on se situe dans la courbe de progression des titres.
Merci beaucoup Frédéric Rosier en direct avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Et surtout, votre message du jour aux investisseurs, c'est le cuivre. Regardez vraiment le potentiel du cuivre avec peut-être cette fusion-acquisition à venir entre BHP et Anglo American, ce qui donnerait naissance à un nouveau leader mondial du cuivre, alors que le cuivre est de plus en plus demandé. Évidemment, on en a besoin pour l'électrification du monde, pour l'IA, le cloud, les véhicules électriques, les éoliennes, le solaire, tout ça demande beaucoup d'électricité. Il y a des études qui nous disent que d'ici 10 ans, l'IA et le cloud consommeront à elles seules 20 à 25% de l'électricité mondiale. Mais pour tout ça, il va falloir plus de cuivre aussi. Et l'idée, donc, c'est que peut-être qu'une dynamique de consolidation est amenée à s'enclencher davantage encore et à s'accélérer. C'est ce qu'on verra peut-être avec donc BHP Billiton et Anglo-American.